le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec le chef Olivier Chaput, coiffé de son trilby, et Jean-Louis Oringo avec sa Georgette. Alors de quoi allons-nous parler? Mais de cuisine, ça paraît pas évident, et pourtant c'est pour le premier salon gastronomique destiné aux enfants. Alors formidable, c'est à Villejuif et c'est les 22 et 23 octobre. Je reçois beaucoup de courriers à destination de Carmela et son grillon Negrito. Bien entendu, je transmets vos lettres, mais mes jeunes amis sont engagés sur tant de fronts pour l'émancipation, pour la dignité, pour la liberté, que je ne suis pas certaine qu'ils répondent à tout le courrier. Alors je vous le demande, excusez-les, s'il vous plaît. Oh ! Ce n'est pas qu'ils ne sachent pas écrire, hein. Surtout ne pensez pas cela. Non, Carmela, qui pourtant manque très souvent l'école, a une très bonne orthographe. Et Negrito, le grillon, a un style. Bon, mercredi dernier, ils m'ont téléphoné depuis le petit village de Haute-Ariège, où ils étaient enfin revenus se poser après toutes ces manifestations à Notre-Dame-des-Landes, à Calais, à Paris et un peu partout en France. Voilà leur appel. Aurais-tu dans tes amis un bon avocat pour nous conseiller ? Oui, je connais d'excellents avocats, mais qu'avez-vous encore fait ? Vous n'êtes pas en garde à vue, au moins. Non, non, rassure-toi, nous voulons juste porter plainte et nous ne savons pas vraiment comment faire. Porter plainte ? Mais contre qui ? Contre le maire de Béziers et peut-être aussi contre l'État. Ah, rien que cela. Bon, et que vous a fait le maire de Béziers ? À nous, rien, ricana Negrito. Je te passe Carmela, elle va t'expliquer car tu m'énerves. Encore une fois, tu tombes du ciel, tu ne sais rien, tu n'as rien vu. Mais que fais-tu dans ta belle maison ronde? Que lis-tu? Ouvre les yeux un peu. Sans avoir le temps de répliquer à cet insecte insolent, Carmela, d'un ton très pédagogique, un peu moqueur peut-être, et très agaçant, poursuivit. Alors voilà, il y a une ville dans le sud-ouest, une belle ville qui a un maire, un tout petit maire. Ce n'est pas par sa taille que je dis cela, mais c'est que ce n'est pas un grand homme, avec un grand H, tu vois. Je crois, oui, je vois. Oui, Carmela, et alors, qu'a-t-il fait le maire de Béziers? Il a fait une campagne d'affichage dans les rues de sa ville et sur les places de Béziers contre l'accueil de migrants. Negrito reprit le téléphone. Sur ces affiches que le maire de Béziers a fait placarder partout, on voit des hommes barbus, des noirs, des jeunes hommes, dont certains ont une capuche. On les voit de dos ou de trois quarts en superposition de la photo de la cathédrale Saint-Nazaire, qui est justement la cathédrale que l'on visite au centre de Béziers. On dirait qu'ils la prennent d'assaut. En caractère très gros, le texte qui accompagne ce photomontage dit, je cite, « L'État nous les impose, ça y est, ils arrivent, les migrants dans notre centre-ville. Oh » Je n'en revenais pas. Ah ben oui, je comprends votre indignation. Nous ne sommes pas indignés, mais en colère, révoltés, me répliqua sèchement Negrito avant de me repasser Carmela. D'accord, d'accord, l'indignation ne sert pas à grand-chose. Vous avez raison. Mais au fait, pourquoi avez-vous besoin d'un avocat? Pour voir avec lui comment porter plainte, pour incitation à la haine raciale, pour trouble à l'ordre public et peut-être encore autre chose d'ailleurs. Nous voulons justement voir avec un avocat si nous, ou des citoyens, peuvent porter plainte. Jusque-là, on s'indigne, mais pas de plainte des associations, ni de l'État d'ailleurs, qui est mis en cause pourtant dans l'affiche, et qui pourtant ne se gêne pas pour poursuivre les militants de Notre-Dame-des-Landes, qui défendent un territoire, ou encore des terres agricoles, ou alors pour défendre les militants qui essaient d'aller à Calais, ou qui sont à Calais, pour soutenir les migrants. Olivier Chaput. début, vous êtes chef, ça veut dire que vous êtes un cuisinier, ça veut dire aussi que vous avez un restaurant qui est à Villejuif, et vous êtes un chef de cuisine qui aimait la cuisine, mais surtout, j'ai l'impression, hein, quand on regarde votre biographie, que vous aimez transmettre. Et pourtant, vous êtes très jeune, c'est pas encore l'âge de la transmission. Ça vient d'où ce goût de la transmission ?
Mais la transmission, je pense que déjà, c'est parce qu'on aime apprendre, tout simplement. Je pense que moi, mon parcours de vie, c'est vraiment apprendre jusqu'à la fin de ma vie de cuisinier, et même peut-être quand je serai à la retraite, et pour pouvoir justement transmettre aux enfants, ça c'est sûr, c'est un peu mon combat, mais peut-être aussi à mes enfants, mes petits-enfants. Donc c'est vrai que la transmission, pour moi, c'est important.
Alors, vous avez découvert la gastronomie comment ?
En fait, depuis tout petit, moi, j'ai ma maman qui m'a dit, voilà, tu veux faire quoi quand tu seras plus grand? Donc, j'avais 5 ans. Je pense que c'est tous les mamans, tous les papas posent la question à leurs enfants. Et moi, j'ai répondu spontanément, je veux faire à manger.
Bon, voilà. Il y en a qui disent, je veux dormir. Moi, j'ai eu un petit garçon, testeur de matelas. Bon, pourquoi pas. Je veux faire à manger, c'est mieux, on partage.
Je veux faire à manger. Et puis, d'année en année, j'ai appris que c'était un métier, qu'on pouvait devenir cuisinier. Et voilà, j'ai eu la chance de rentrer au lycée hôtelier. J'avais 14 ans, donc.
Ah oui. Et quelle cuisine pratiquez-vous ?
Alors moi, je suis plutôt dans la cuisine traditionnelle française, mais comme j'ai pas mal voyagé, j'essaie toujours d'amener des petites touches, un peu d'épices ou des techniques comme ça que j'ai rencontrées tout au long de mes voyages. Donc voilà, à chaque fois que je pars dans un pays ou que je pars ne serait-ce qu'en France, parce que c'est vrai que chaque région de France est un pays où on apprend plein de petites choses, et ben je ramène ça et j'agrémente ma cuisine avec ce que j'apprends justement.
Alors, on va reparler de ce goût de la transmission, mais là, si vous êtes dans nos studios, dans notre émission, c'est parce que vous avez initié le premier salon de gastronomie destiné aux enfants. À partir de quel âge ?
Donc, la cible, c'est 5-13 ans, mais on sait très bien que les enfants, dès 2 ans, ils aiment manipuler, ils aiment voir des choses, donc, et puis ils aiment goûter. Donc voilà, à 2 ans, ils peuvent déjà venir. Il y a plein de parents qui m'ont posé la question, parce qu'ils avaient des enfants en bas âge, donc ils peuvent venir. Et après, ce qui est très drôle, c'est que j'ai des ados qui sont venus me voir 15-16 ans pour me dire, Olivier, comment on peut participer au salon? Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Venez vous faire plaisir, parce que je pense qu'il y aura plein de choses à apprendre, quoi.
Alors, il y a 3 thématiques assez classiques, finalement. Le goût. La seconde, c'est les textures. Et c'est vrai que les enfants sont très sensibles au goût et à la texture et au parfum. Mais ça, c'est dû que le nez. Alors, est-ce qu'il va y avoir des ateliers, par exemple, pour éduquer le nez ?
Alors, en fait, on est parti sur la représentation de... On est parti sur la phrase « manger, bouger ». Donc, c'est vrai qu'on a voulu monter ce salon dans cet état d'esprit-là. Et on va réaliser un marché entier avec tout ce qu'on peut trouver sur un marché, viande, poisson. Donc déjà, les odeurs seront là. Le maraîcher qui sera là aussi. Le fromage. Donc là, on aura aussi encore une question d'odeur. Donc chaque partie, en tous les cas, de ce marché, les meilleurs ouvriers de France qui seront derrière, donc de chaque catégorie, plus les producteurs vont pouvoir faire goûter, cru, et puis faire manipuler les enfants et même sentir les produits aux enfants. Donc déjà, on a vraiment cette sensation de faire marcher les 5 sens en tous les cas.
Alors en général, les enfants, quand on les amène au marché ou quand je les regarde au marché, bah, il faut qu'ils se mettent sur la pointe des pieds quand un certain âge pour essayer de mettre un doigt sur l'œil d'un poisson mort ou d'essayer de piquer une fraise chez le maraîcher. Est-ce que là, puisque c'est leur salon, vous avez pensé aussi à ça?
Donc en fait, là, on a décidé que les enfants seraient à la hauteur des parents. Donc devant chaque table d'atelier, chaque banc, en tous les cas, de marché, il y aura une estrade. Un peu comme devant les grands magasins aux périodes de Noël,
ah oui. Où
les enfants pourront monter sur l'estrade et ils seront à la hauteur des parents. Comme ça, ils pourront bien voir et surplomber toutes les
Est-ce qu'ils auront le droit de toucher ?
Ils auront le droit de toucher, parce qu'en plus, le but, c'est qu'en face de ce marché, on aura une cuisine et une pâtisserie, où il y aura des cuisiniers et des pâtissiers qui feront des démos avec les produits du marché toute la journée. Mais les enfants pourront challenger aussi les cuisiniers et les pâtissiers. C'est-à-dire, ils peuvent très bien dire au boucher, moi, je voudrais bien que vous me donniez un morceau de viande, celui-là, je le connais pas, donc le boucher pourra l'expliquer. Puis, ils vont pouvoir prendre un légume à côté ou un fruit, arriver avec leur assiette et dire au cuisinier, cuisine-moi ça.
Ils vont cuisiner, eux.
Alors, ils vont participer participer. Ça sera des démonstrations participatives, donc il y aura des ateliers où ils pourront participer, mais ça restera quelque chose de assez général, de façon à pouvoir, on va dire, toucher un maximum de public, en fait. Donc ils seront devant les cuisines, ils pourront bien évidemment lancer des petits challenges au chef, goûter, faire des finitions, mais là où ils pourront vraiment cuisiner, c'est que à la fermeture du salon, on va réaliser un restaurant éphémère où on aura 10 enfants qui seront inscrits et qui auront inscrit leur famille. Et de 19h30 à 20h30, les enfants vont pouvoir faire un grand atelier et cuisiner pour leurs parents.
Le 23 octobre, donc.
Le samedi soir, ouais, le 22.
Et comment on s'inscrit alors
Alors, à partir de 14h, sur le salon, directement sur place.
Et comment vous allez choisir ces enfants
On va faire...
un tirage au sort.
On va faire une inscription, voilà, les premiers inscrits, qui arriveront sur le salon, ou les premiers qui voudront s'inscrire, parce que des fois, on inscrit les enfants, mais nous, on ne veut pas tellement être dans l'obligation ou dans la frustration. Donc on veut que les enfants spontanément disent oui, moi j'ai envie de participer, cuisiner avec les chefs cuisiniers et chefs pâtissiers, préparer leur petit menu, le servir aux parents le soir qui seront assis sur des tables d'enfants, table basse et chaise basse.
Alors, vous avez bien sûr beaucoup de gens qui vous accompagnent pour ce salon. Combien d'exposants à peu près?
On a une vingtaine d'exposants et une dizaine d'ateliers.
Voilà, c'est pas mal, hein, 10 ateliers, dont un qui va être animé par Jean-Louis Orango. Jean-Louis Orango est avec nous et pas avec nous, mais ça c'est le miracle de la radio et de la technique, c'est qu'il est au téléphone, il est sur une aire d'autoroute dans sa voiture, parce qu'il voyage beaucoup, parce qu'il donne beaucoup de conférences, de cours aussi. Jean-Louis Orango, j'ai dit tout à l'heure qu'il était avec sa Georgette. Alors sa Georgette, c'est pas son épouse, ni son amoureuse, ni sa cousine, c'est ce qu'il a inventé. Moi, je l'ai connu par cet objet qui va nous définir tout de suite. Jean-Louis, vous pouvez nous expliquer qui est Georgette?
Une Georgette, c'est tout simplement un couvert qui est à la fois une fourchette traditionnelle parce qu'il y a quatre pointes, quatre fourchons. Il y a également un cuiron qui permet de prendre la sauce ou de prendre la soupe comme une cuillère traditionnelle. Mmh. Une bordure est effilée, très proche d'un couteau, mais qui ne taille pas le bord des lèvres. Et le manche est un manche qui est asymétrique et qui permet de bien caler le couvert dans le creux de la main.
Alors, il faut imaginer peut-être pour les auditeurs qui pourront aller voir sur votre site à quoi ressemble cette Georgette, qui n'est pas un couteau suisse, c'est-à-dire c'est un seul élément. Imaginez, moi quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était, mais je n'y connais rien en trace, bien qu'étant ariégeoise comme vous, j'ai cru que c'était la empreinte d'une patte d'ours. Mais je crois pas que ce soit la patte d'ours qui vous ait inspiré, Jean-Louis Orango.
C'est effectivement très proche dans la forme d'éléments que l'on connaît dans la nature. C'est à la fois une main humaine si on replie le pouce et qu'on réduit la longueur de nos phalanges. C'est la patte d'un ours, en comparaison, est bonne par sa largeur. Et c'est très très proche de l'empreinte, ou de la patte en tout cas, de la taupe, qui est un animal très adapté au fouissage et qui n'a même plus de coussinet de doigts, mais simplement des griffes à l'extrémité d'une large palette qui lui sert de pelle.
Alors, il faut dire que si vous en savez autant sur les traces, c'est que c'est votre spécialité. Vous êtes ichnologue, c'est comme ça que l'on dit?
Oui, oui. L'ichnologie vient du grec, ichnos, empreinte de pas. Et l'ichnologie, c'est simplement la science de l'interprétation des traces. Je suis un passionné d'interprétation de traces, qu'elles soient animales ou humaine, ou laissée par les éléments naturels.
Alors vous êtes tellement passionné par ça que vous avez créé une association, L'Œil aux Aguets, je crois que c'est à Saint-Lizier, près de Saint-Giron,
oui.
C'est ça?
Oui, oui, au cœur de l'Ariège.
Alors qu'est-ce que cette association est destinée aux enfants aussi?
L'association permet à de nombreux enfants, depuis déjà plus de 25 ans, de venir s'initier à la connaissance de la nature par la lecture des traces, par leur interprétation et par des capacités à être débrouillards dans la nature, savoir cuisiner, savoir se déplacer, savoir marcher dans la neige, dans les endroits pentus, avec un bâton, Voilà, ça fait partie des activités habituelles de l'association.
Alors vous qui avez été trappeur et naturaliste, on comprend que vous ayez envie de transmettre ce goût de la débrouille et de la bricole pour essayer de s'en sortir d'un milieu hostile. Et justement, dans ce fameux salon gastronomique destiné aux enfants que Olivier Chaput crée cette année, vous allez animer un atelier. Alors, un atelier sur quoi ?
Pour coller à la thématique et à l'objectif d'Olivier Chaput, qui est de mettre à la portée des enfants le maximum de connaissances liées à la gastronomie, eh bien nous allons mener un atelier autour du bois et de la façon de travailler le bois avec un outil simple qui n'a pas besoin de source électrique. Donc c'est notre propre force des bras qui permet de l'utiliser. C'est tout simplement un couteau avec deux parties arrondies aux extrémités. Cet outil, on l'appelle la plane, et on utilise une sorte de chevalet sur laquelle on est assis et qui sert d'étau pour coincer un morceau de bois. Et grâce à cette plane, en tirant vers soi, on retire des morceaux de bois et qui vont permettre, pour l'occasion du salon, de faire en sorte que les enfants puissent être acteurs assis sur ce banc pour fabriquer une spatule, par exemple, pour la cuisine, pour faire des crêpes ou pour remuer dans un faitout. Voilà. L'idée, c'est que l'enfant réalise par sa force, par lui-même et par le choix du bois que l'on fera, qui sera un bois tendre en fonction des capacités de chaque enfant. Eh bien, l'idée, c'est qu'il soit acteur et qu'il réalise quelque chose en lien avec la cuisine.
Et dites-moi, Jean-Louis Ringot, la première georgette ou les brouillons de la georgette, est-ce que vous les avez fait avec cet outil-là et sur du bois ?
Alors non, j'ai utilisé des matières comme le silicone, le plâtre, les résines, puis après le bronze, la corne. Enfin voilà, les différents matériaux qui m'ont permis à faire les étapes de prototype.
Alors, est-ce que pour vous, passer deux jours avec des enfants, c'est quelque chose qui vous excite ? Parce que finalement, vous avez tellement d'activités.
Alors, ça m'excite dans le sens où c'est toujours intéressant de transmettre. Et je rejoins totalement Olivier Chaput, puisque j'ai toujours aimé apprendre. Pas à l'école, je suis un ancien mauvais élève.
Comme lui, hein, je vois qu'il sourit.
mais j'aime rencontrer des personnes qui sont des passionnés. Et à travers leur capacité à aimer transmettre, eh bien, je me nourris de cela. Et j'adore la démarche expérimentale. Donc, en l'occurrence, par rapport à ce projet-là, je vais être énormément accompagné puisque le contexte le permet, j'ai aussi des enfants, et mes enfants, on leur a dit, on va aller à la capitale. On va partir ensemble à Paris. Avec mon épouse, depuis un an, on part beaucoup sur des salons professionnels, en laissant nos enfants à la maison. Ce projet de salon pour les enfants, adapté aux enfants, mais ouvert bien entendu à leurs parents, eh bien, c'est une façon aussi de faire venir mes propres enfants avec un rôle. Mon souhait, c'est que ce soit eux qui transmettent à d'autres enfants ce savoir-faire de l'outil. Et en fait, moi, je m'occuperai simplement de jeter un œil, de manière à ce que ça se passe le mieux possible.
Ça veut dire que vous l'avez appris à vos propres enfants, qui ont quel âge, hein ?
Oui, le plus jeune a 6 ans, mais dès 2 ans, il était déjà sur mes genoux, en train de vouloir utiliser les outils, c'est-à-dire un couteau pour la cuisine et une plane pour fabriquer des objets en bois.
Ben formidable, écoutez, merci Jean-Louis Ringot, on vous libère pour que vous quittiez cette aire d'autoroute, ça ne doit pas être très confortable. Et on vous retrouve donc auprès d'Olivier Chaput avec vos enfants et votre femme au salon gastronomique destiné aux enfants, le premier de ce nom qui va se dérouler à Villejuif les 22 et 23 octobre.
Culture. Le temps buissonnier, Aline Paillet.
Olivier Chaput, c'est formidable. Comment avez-vous connu Jean-Louis Auringot et convaincu de venir participer à cette première édition de ce salon gastronomique pour les enfants?
Mais en fait, la rencontre est assez géniale. Bon. Pas tellement exceptionnel. On fait des salons ensemble et donc voilà, on s'est rencontrés sur un salon et je me suis arrêté vraiment la bouche ébahie devant son outil. Je me suis dit mais c'est extraordinaire.
La Georgette.
Ouais. Là, ça, c'était assez dingue d'avoir inventé ça. Je me suis dit mais alors j'ai demandé qui m'explique. Et là, je pense que c'est là où je suis resté le plus longtemps sur le stand d'ailleurs parce que Jean-Louis adore bavarder comme moi et donc du coup on est arrivé pendant une heure et demie, il m'a expliqué l'histoire de A à Z et comment ça coupe et comment ça tranche et comment on peut utiliser les fourchons comme il dit et la cuillère et je trouvais ça génial et j'ai d'autant plus trouvé ça génial que moi qui adore le camping et la randonnée, je me suis dit mais c'est tout à fait un outil assez extraordinaire parce que déjà ça prend pas de poids, on peut faire pas mal de choses et j'ai testé avec mes propres enfants qui ont adoré, qui sont tout de suite et après je me suis dit mais c'est extraordinaire parce qu'on peut aussi bien utiliser ça dans le monde des enfants quand on se blesse. Imaginez que vous cassez un bras et ben vous avez plus que la main droite ou la main gauche et ben c'est tellement pratique d'avoir un couvert qui fait tout. Enfin il y avait plein de conditions où je me suis imaginé ça dans les hôpitaux parce que je fais énormément d'ateliers aussi dans les hôpitaux pour les enfants où il y a des fois des maladies qui nous empêchent d'utiliser tous nos membres. Enfin voilà, la vision de la Georgette, je me suis dit mais voilà, il y a un truc à faire et en fait on s'est plus quitté et pour moi c'était naturel que Jean-Louis Auringot soit sur le salon parce que comme il le dit lui-même, il aime transmettre et les enfants ont besoin qu'on leur transmette des choses parce que je pense que c'est l'avenir.
Alors vous l'avez dit au début, Olivier Chaput, l'idée c'était bien sûr de manger mais aussi de bouger. On imagine là le souci pour un chef comme vous de lier gastronomie et alors pas santé. Moi je me souviens d'un grand chef qui disait dans son restaurant quand on lui demandait c'est pas trop gras, c'est pas trop sucré, il disait bon écoutez, on n'est pas dans une cuisine dans un hôpital diététique, on est dans la cuisine d'un grand chef, donc ne me posez pas ces questions. Oui, c'est gras, oui, c'est salé, oui, c'est sucré. Et si vous voulez faire un régime, allez ailleurs. Il est un peu rude. Il était du Sud-Ouest aussi. Enfin, il est toujours vivant. Mais au-delà de la boutade, c'est quand même de plus en plus un souci de la part des chefs aujourd'hui de lier gastronomie et santé.
En fait, on est devant plein de facteurs. En fait, il y a effectivement moins de sel, moins de sucre, moins de gras. Alors moi, j'utilise la graisse de canard parce que en ayant fait mon apprentissage en Basse-Corrèze, on utilise la graisse de canard. Donc, c'est vrai que quand je cuis mes viandes, je les cuis à la graisse de canard. C'est vrai que c'est une très bonne graisse. Donc, mais c'est vrai que voilà, on a les allergies alimentaires qui sont de plus en plus prononcées. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même qui se sont passées, on va dire, au fil des années.
L'obésité qui a gagné.
Et l'obésité infantile qui cesse d'augmenter. Donc bon, voilà, il y a quand même tout ça qui est en ligne de compte. Alors, dans le salon, on s'est dit voilà, aujourd'hui, moi, je suis pas du tout un anti. C'est-à-dire que je vais pas être anti-fast-food ou anti-sandwich ou anti-je-sais-pas-quoi, c'est vrai que j'aurais tendance à être plutôt dans la prise de conscience. C'est-à-dire, voilà, il y a des alimentations, ça existe. Il y a tel burger de tel fast-food, mais il y a aussi le burger qu'on peut faire soi-même. Et essayer d'amener les enfants en disant, voilà, le burger dans tel fast-food, ça peut être une notion de plaisir, une fois, parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on aime ça et on y va avec la famille, voilà, c'est rigolo. Mais ça veut dire que c'est une fois, que c'est pas un excès. Et je pense que ce qui rend les enfants obèses ou autres, hein, c'est l'excès. Alors, l'excès de sucre, l'excès. Manger un bonbon, c'est pas grave. Si 5 minutes après, on va prendre l'escalier plutôt que de prendre l'ascenseur pour rentrer chez soi. Je veux dire, c'est un peu cette démarche dans le salon de dire voilà, aujourd'hui, je découvre des produits. On va me les cuisiner. J'ai des pâtissiers qui vont me faire goûter des choses. C'est vrai que la pâtisserie, il y a du sucre, il y a du beurre. Donc, surtout la pâtisserie française, c'est quand même une pâtisserie qui est quand même assez riche. Mais après, on va s'orienter vers le pôle nutrition santé, qui vont pas nous dire, mangez pas de sel, mangez pas de sucre, mangez pas de gras, mais qui vont dire, voilà, aujourd'hui, t'as mangé ça, ou t'as dégusté ça, voilà ce qui va se passer dans ton corps. Donc, si t'en manges trop, il peut y arriver ça. Si t'en manges pas assez aussi, il peut arriver ça. Parce qu'il faut savoir que les huiles, ça peut être quelque chose de très bon. Si on a une diversité.
Le cerveau a besoin de gras.
Voilà. Dans les huiles, on peut avoir l'huile de noisette, l'huile de noix. Donc, on est là pour montrer aux enfants tout ça. qu'il existe plein de choses différentes et pas qu'une seule chose. Donc ensuite, une fois qu'on aura expliqué sur ce pôle, les nutritionnistes pourront dire tout simplement, bah tiens, tu vois, là, t'as mangé un ou deux macarons, eh ben, va au pôle activité physique et ils vont t'apprendre à te dépenser. Sans spécialement parler de sport, parce qu'en règle générale, quand on parle de sport aux enfants, il y en a un sur deux qui s'en va en courant. Donc du coup, voilà.
Dites-moi, avec votre pratique des ateliers, des écoles aussi, vous avez été chroniqueur dans les maternelles, à la télé, est-ce que les enfants, les bébés et les tout-petits sont gourmets ?
Ben, c'est vrai que, en fait, je pense que tous les enfants sont assez gourmets. Il faut pas avoir peur de leur faire tester de tout. Bien évidemment, moi, j'en réfère toujours quand même aux pédiatres qui ont le savoir de à quel moment on peut introduire tel aliment dans l'alimentation d'un enfant. Mais moi, je vois mes enfants, je leur ai fait vraiment goûter de tout. Le petit dernier, il mangeait du roquefort à 2 ans. Voilà, ça lui a pas fait tomber la langue. Donc, voilà, il y a pas mal de choses comme ça. J'ai mon grand, c'est pareil. Il mange de tout. Je pense qu'en fait, il faut vraiment, alors c'est vrai que souvent on me reprend quand je dis forcer à goûter les enfants, mais c'est vrai qu'il faut forcer un enfant à goûter, parce que c'est comme ça qu'on lui produit le palais. Pas forcer à manger, c'est vraiment une chose différente, mais forcer à goûter pour que le palais, ce qu'il aime pas à 4 ans, peut-être qu'il va l'aimer à 7. Donc pour moi ça c'est important.
Alors pour vous c'est l'idée de faire, et je crois que c'est une belle manière de transmettre. Effectivement, forcer à goûter, oui, mais quand on fabrique soi-même, quand on fait la cuisine, on va découvrir les odeurs, les textures et après le goût. Et là c'est une des meilleures façons d'oser découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Alors vous avez écrit 2 livres, un qui s'appelle « Je cuisine comme un grand » pour les 3 à 7 ans, et le second qui est à partir de 7 ans, c'est moi le cuisinier, c'est aux éditions Erol, on les trouve toujours
ces livres.
Alors ils sont sous forme de... ils sont très pratiques.
Oui, c'est un papier glacé sous forme de spirale. Voilà. Comme ça c'est très bien
ça
pour
se
la cuisine.
Salit pas.
Un coup d'éponge et ça y est.
Voilà. Et puis je rappelle aussi, j'en avais parlé, mais c'est aux éditions Rue de Monde, une cuisine du monde pour les bébés, 60 recettes pour initier les tout-petits aux saveurs d'ailleurs. C'est vrai que les saveurs sont culturelles et qu'on peut ne pas... aimer et même être absolument dans une répulsion totale pour la mer, pour le selon les on peut arriver à l'âge adulte à s'ouvrir à d'autres saveurs.
En fait, je pense que on peut y arriver, mais ça demande peut-être plus de temps et il faut vraiment être curieux, parce que c'est vrai que, par exemple, moi, si aujourd'hui on me dit, en ce moment c'est la mode de manger des insectes partout, si on me dit il faut manger un grillon, je vais avoir du mal.
Ouais, voilà.
Alors
aussi.
Que
ah, surtout pas les grillons, parce que nous on a un grillon et là il va pas se laisser faire, il va monter un syndicat voire pire. Non, attention, pas les grillons, hein, mais les sauterelles, allons-y.
Mais c'est vrai que les sauterelles ou même les vers, enfin c'est quelque chose d'assez fou, et pourtant dans plein de pays c'est presque culturel, quoi, on mange les insectes.
Est-ce que, donc bon. Juste voilà. Une question, parce que donc il y a ce salon à Villejuif. Ce salon de gastronomie pour les enfants, est-ce que dans votre restaurant, parce que c'est pas toujours le cas, les enfants sont bien accueillis ?
Alors moi, les enfants sont très bien accueillis, parce qu'en plus, la plupart ramènent leurs parents dans mon restaurant, parce que c'est vrai, dès qu'ils me voient, ou ils sont assez curieux, donc voilà, il y a pas mal d'enfants à Villejuif qui tournent autour du restaurant, donc ça c'est plutôt chouette. Et ils sont bien accueillis dans le sens où j'ai bien évidemment le steak frites légumes ou le morceau de poulet, mais j'ai pas les nuggets, ça c'est hors de question, ça c'est quelque chose que je n'aime pas. Mais par contre, chaque plat de ma carte peut être dégusté pour les enfants, moitié portion, moitié prix.
Ah, c'est une
donc
bonne idée.
Du coup, les enfants peuvent se dire à un moment donné, d'ailleurs ils le font de plus en plus, surtout les enfants que je repère un peu habitués comme ça, qui viennent le mercredi midi avec leur maman et ça, je leur dis, tiens, mais aujourd'hui si tu goûtais peut-être ça, j'en suis sûr que ça te plairait, et ainsi de suite. Donc on éduque petit à petit.
Toujours. Alors, bonne chance pour ce premier salon.
Merci
et longue
beaucoup.
Vie, j'espère, pour ce salon. Au fait, les producteurs, ils sont enchantés aussi de venir. C'est des producteurs
ouais,
de
ouais.
région parisienne.
Ben, on va travailler beaucoup avec le Servia, donc,
ouais.
qui est le, voilà, le producteur d'Île-de-France, en fait.
Voilà, les producteurs d'Île-de-France. Bah, écoutez, bon week-end.
Merci
à
beaucoup.
Villejuif, c'est le 22 et 23 octobre. Allez-y, avec ou sans enfants, parce que peut-être il y a des gens qui vont faire un tour, même s'ils n'ont pas d'enfants. enfants ou s'ils ont grandi.
Ils ont raison.
Merci Olivier Chaput, merci Jean-Louis Oringo qui nous a appelé depuis sa voiture. Et on peut retrouver toutes les indications de ce dont nous avons parlé sur notre site. On peut aussi y télécharger l'émission pour la réécouter. C'est sur franceculture.fr. Le temps buissonnier, Aline Paillet, Laetitia Coya, Annie Comier et à la technique, Alexandre Dang. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Il va falloir attendre dimanche prochain. Mais je vous laisse en compagnie des programmes de France Culture et tout de suite le premier journal de la journée.